Amen. Bonjour à, bonjour à chacun, bonjour à tout le monde, bonjour. Ça va, vous m'entendez?
Ça fait.
C'est bon? On va continuer notre méditation sur la révélation, mais on va continuer. J'ai deux dimanches avant que je vous quitte. Donc j'ai deux dimanches pour terminer la notion de la révélation. Alors, ça fait quelques temps qu'on a repris, il y a des gens qui prennent la méditation en cours, donc on va faire un rapide rappel du sujet de notre méditation biblique. Proverbe 29-18, quand il n'y a pas de révélation, le peuple, et notamment le peuple de Dieu, est sans frein, mais heureux s'il observe la loi. D'où l'importance de réaliser que nous avons besoin de... Ok, vous n'êtes pas bien réveillé là. Nous avons besoin de révélation. L'intérêt de cette série d'études, c'est également de... Il est double, à la fois de ne pas nous laisser manipuler par ceux qui utilisent ce mot-là à des fins qui n'ont rien de spirituel. Et malheureusement, il faut qu'on soit conscient que l'on est dans un monde avec des faux prophètes, où chacun cherche à prêcher ce qui l'intéresse, et des gens se donneront une foule de docteurs cherchant ce qu'eux, ils ont envie d'entendre. Donc la notion de révélation, elle est une source de manipulation, et nous devons être conscients du monde dans lequel on est. Et je crois que chacun d'entre nous, malheureusement, on pourrait raconter des histoires de gens qui ont été manipulés au nom de la révélation. Mais il y a une révélation qui est d'ordre biblique, et qui est, à un sens, c'est celui d'ouvrir les yeux. Le mot révélation, c'est ôter le voile, révéler, expliquer. Bon, je vous laisserai découvrir les diapos au fur et à mesure. Et nous, notre but, c'est de rentrer donc dans ces opportunités que le Seigneur veut que nous comprenions au travers de cette compréhension de l'œuvre de Dieu, de la réalisation de la volonté de Dieu. Alors, on avait vu qu'il y avait trois types de révélations. Une révélation dite universelle, générale, parce qu'il y a des choses que l'on peut comprendre par notre intelligence. Dieu nous a créés avec une conscience et il veut que l'on s'en serve. Dieu nous a donné sa parole, ça c'est la révélation de la connaissance. Et c'est elle qui est le point central, qui est vraiment la fondation. Comme vos maisons sont fondées sur des fondations, vous ne les voyez pas. Et pourtant, si elles n'étaient pas là, vous ne pourriez pas habiter dans les maisons. Il y a la parole qui est la fondation. Et il y a effectivement, on s'aperçoit, une révélation qui est d'ordre de l'inspiration. Le privilège que nous avons, c'est que nous n'avons pas un Dieu mort. Notre Dieu n'est pas une statue. Notre Dieu n'est pas là une sorte de puissance invisible. Non. Dieu a une volonté, il communique aux hommes. S'il y a des guérisons au milieu de nous, c'est par l'action du Saint-Esprit. S'il y a des gens qui ont le cœur transformé, bouleversé par la puissance du Saint-Esprit, s'il y a des gens qui sont délivrés de leurs péchés, de leurs drogues, de leur tabac, de leur passé, c'est par la puissance du Saint-Esprit. Et le même Esprit est celui qui est capable de diriger, d'inspirer les hommes. Alléluia. Et c'est cette révélation par inspiration qui n'est jamais indépendante de la révélation de la parole. On est d'accord, hein, la parole et la révélation d'inspiration doit toujours être corroborée par la parole. Mais on avait vu qu'il y avait deux moyens d'inspiration. Et c'était la dernière fois, on s'était arrêté sur l'emploi que Dieu fait des songes, des rêves et des visions. Parce que Dieu nous interpelle, Dieu parle. Hein, on a vu toutes ces références par des rêves, par des songes. Et on avait vu que ce moyen de songe, rêve et vision a pour but d'interpeller notre piété personnelle. Quand Dieu nous interpelle par un songe, par un rêve, c'est pas pour que le monde entier le sache, c'est pour nous travailler nous-mêmes. C'est pour ça qu'on avait vu qu'il y avait même des inconvertis dans la Bible qui avaient été interpellés par des songes et des rêves. Et c'est pas pour ça qu'ils sont en adéquation avec la volonté de Dieu. Mais Dieu, c'est un des moyens par lequel Dieu parle pour nous faire réfléchir, méditer. Mais ceux qui veulent plus de renseignements, n'hésitez pas à aller sur le site de l'Église. Toutes ces prédications sont en ligne. Et on va voir aujourd'hui le deuxième moyen que Dieu emploie, qui est dans les dons d'inspiration, qui est les dons spirituels. Alors et ça, c'est pour l'édification de l'Église. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Donc tu peux avancer. Donc ça, c'était la semaine sur les songes. Voilà. Et ça va être la thématique d'aujourd'hui. Je vous invite à ouvrir votre Bible dans la première épître aux Corinthiens. Et là, on rentre dans une autre dimension de la série de méditations. C'est que le désir, au travers de la méditation d'aujourd'hui et de dimanche prochain, c'est de nous apercevoir que Dieu a des trésors accessibles à chacun d'entre nous. Nous avons tous la possibilité, et nous verrons ça la semaine dernière, nous avons tous la possibilité d'être un instrument de bénédiction pour l'édification de l'Église au travers de ces dons d'inspiration. Et le désir, moi, vraiment, ce matin dans mon cœur, ce n'est pas seulement de vous informer. Ah, vous savez, Dieu peut nous inspirer. Mais j'aimerais tellement susciter une sainte jalousie dans votre cœur. Une sainte hardiesse. Un désir qui nourrirait de votre cœur. Mais moi, je veux vivre ça. Je veux être un instrument de bénédiction pour l'Église. Je veux que l'Église soit enrichie de ces dons-là. Le désir de mon cœur ce matin, ce n'est pas seulement de dire, d'informer, mais par la grâce de Dieu, d'allumer un feu dans votre cœur et un esprit nouveau quant à toutes ces richesses. 1 Corinthiens chapitre 12, lisons les versets 7 à 11. Or, à, c'est écrit quoi là ?
Chacun.
Chacun. Qui est concerné par le chacun ici ? Tu peux lever la main ? Ok. Donc ce texte c'est pour qui ?
Pour nous.
Très bien. Et chacun peut dire c'est pour moi. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. On n'est plus dans des songes qui nous concernent personnellement. Dieu a prévu quelque chose pour chacun, afin qu'il puisse enrichir tout le monde.
Amen.
En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance. Selon le même Esprit, à un autre la foi, par le même Esprit, à un autre le don des guérisons, par le même Esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues, un seul et même Esprit opère toutes ces choses, les distribuant à quelques-uns dans l'Église, à chacun, en particulier, comme Dieu le veut. Amen. L'inspiration la révélation par inspiration est un des moyens divins. La parole de Dieu nous apprend toutes choses. Et il nous est là énuméré 9 dons, qu'on appelle dons spirituels, 9 dons que Dieu veut donner à l'Église. C'est pas une option, c'est une nécessité que l'Église soit enrichie de tous ces dons. Dans l'Église de Corinthe, il est dit qu'il ne manquait aucun don. Et donc nous aussi, on doit rechercher tous ces dons. Parmi ces 9 dons, parce qu'il y a ce qu'on appelle des dons de puissance, miracle, guérison, foi. Mais on va se concentrer ce matin sur 9 dons. Il y en a 5 qui sont des dons d'inspiration. C'est quand même beaucoup, non ? Nous, les hommes, on est beaucoup sur la puissance, le miracle, le prodigieux. Mais dans l'équilibre de Dieu, sur 9 dons, il y en a 5 qui sont de l'ordre de l'inspiration. Il y a quelque chose que l'on reçoit de la part de Dieu et qui doit être communiqué, transmis, évidemment, par la foi. Quels sont ces 5 dons? Et c'est le sujet de notre méditation ce matin. On va se concentrer sur la définition, sur des exemples, et puis nous verrons la semaine prochaine l'aspect pratique d'exercer et de développer, de stimuler ces dons. Le premier don qui nous est marqué là, c'est la parole de sagesse. Qu'est-ce qu'une parole de sagesse? C'est une parole, une direction que par le Saint-Esprit, Dieu peut donner à un frère, une sœur, à l'Assemblée. Lorsqu'il y a une situation, un conflit, une situation où on n'arrive pas à trouver une solution, on a besoin d'une solution, et alors on s'évertue, on pose les problèmes, on cherche des solutions, et on ne trouve pas une solution correcte. Et là, il y a une parole de sagesse. Il y a une parole de sagesse qui est donnée et qui est comme une sorte de rayon de soleil. C'est comme un éclaircissement qui permet là de que tout le monde trouve qu'il y a là une sagesse d'en haut, une direction du Seigneur, et qui crée une sorte d'unanimité. Il y a des exemples dans l'Ancien Testament, par exemple Daniel, Joseph, ses frères avaient reçu du Seigneur la compréhension des songes, des prodiges, des songes et des visions, mille excuses. Mais on voit aussi que par leur sagesse, reconnue par leur roi, ils trouvaient la solution pour le peuple. Ils étaient devenus des conseillers même, ces gens-là. Parce qu'on reconnaissait en eux une sagesse qui n'était pas dans celle des autres. Si on parle de Jésus. Jésus, alors bien sûr, vous me direz, oui, mais c'est Dieu. Mais justement, il incarne parfaitement tous les dons spirituels. Et on voit en Jésus, même lorsque les accusateurs étaient venus pour l'arrêter, l'accuser, trouver en lui un défaut et l'arrêter, même les huissiers étaient là, ils étaient bouche bée. Et ils disaient, mais aucun homme n'a parlé comme cet homme. Parce qu'il y avait dans la manière de parler cette puissance, cette sagesse qui fait que même les ennemis étaient confondus et n'avaient rien d'autre à redire. Ça, vous pouvez ça en Jean chapitre 7, verset 46. Il y a la même évidence spirituelle en Actes chapitre 15, verset 22. Qu'est-ce qui se passe en Actes chapitre 15? Il y a un grand problème. Les églises sont divisées. Il y a les juifs convertis, mais les juifs quand même avec leurs traditions, et ils veulent que dans l'église on continue de pratiquer la circoncision, les lois de la loi juive, et vraiment l'église est vraiment divisée en deux parce qu'il y a un gros paquet là d'hommes et de femmes qui ont toujours pratiqué la loi avec les 800 lois de la loi, il faut les appliquer. Et puis de l'autre côté, l'autre partie de l'église, c'était des gens qui avaient jamais grandi avec la loi, c'était des païens, eux ils faisaient des choses ignobles avant, et puis ils avaient aucune référence, aucune déférence de pratique. Et il y avait dans l'église des gens qui avaient l'habitude d'une vie légaliste à l'extrême, et de l'autre côté, des gens qui étaient très ouverts à la mondanité, à la prostitution. Imaginez, à l'époque, il y avait même des temples, on faisait de la prostitution sacrée. Donc c'était même un culte rendu à des dieux que d'aller vers les prostituées. Donc vous vous rendez compte, dans la même assemblée, des gens qui étaient très très sérieux, très stricts, et puis de l'autre côté, des gens qui avaient des repères complètement dissolus. Qui a raison? Et bien là, pas facile de trouver un compromis. Actes chapitre 15, les apôtres se réunissent, ils échangent, ils discutent, et là, Jacques ouvre la bouche. Et là, il y a comme un accord. Et il est dit, il a paru bon aux apôtres, aux anciens et à toute l'église de faire comme ça. Il a paru bon. Il y a comme une sorte de bon sens, de sagesse. Rappelez-vous, lorsqu'on avait étudié la sagesse, elle est modérée, elle est conciliante, elle est pacifique, elle communique quelque chose de serein, de paisible. Et là, Jacques, il n'est pas inspiré à trembler, il ne va pas dire « Tiens, le Seigneur m'a révélé que non !» Il reçoit une parole de sagesse qui fait que aux apôtres, aux anciens et à l'Église, il y a comme un consensus qui dit que oui, c'est la bonne direction. Et un peu plus loin d'ailleurs, au verset 22, il est écrit « Il a paru bon au Saint-Esprit et à nous de faire ceci, de faire cela. » Donc ça, c'est la parole de sagesse. Il y a la parole de connaissance. Ah, la parole de connaissance, elle est très directe. La parole de connaissance, c'est quelqu'un qui reçoit dans son cœur la connaissance de quelque chose qu'il devrait complètement ignorer. Un exemple qu'on m'a raconté, il y avait un monsieur qui en a converti. Il avait appris, je crois, une sorte que son épouse avait été allée chez un amant et tout. Et animé de la colère, animé de blessures, animé de vengeance, cet homme était allé acheter un couteau. Alors je ne sais plus si c'était pour couper la tête du gars ou de sa femme. Mais en tout cas, il était parti, il était acheté un bon couteau. Il avait mis ça dans son sac et il était sur le chemin du retour. Et puis là, dans la souffrance, Bon, je sais pas, ça m'est jamais arrivé d'être dans cette situation-là, mais vous comprenez que les émotions se bagarrent dans le cœur. Et voilà qu'il passe devant une église évangélique, qu'il entend quelques chandés. Et puis ça l'interpelle. Il dit, avant de faire ce que j'ai à faire, je vais aller là-bas. Il rentre dans cette salle. Et là, il y a une parole de connaissance. Il y a quelqu'un qui ouvre sa bouche et qui dit qu'il a un couteau dans son sac. Ha ! Incroyable ! Et là, son cœur est dévoilé, il se sent touché. Et ça, c'est ça une parole de connaissance. La personne ne sait rien, mais le Seigneur lui dit, elle, lui, tac, il y a cela. Alors ça peut être utile, soit pour notre piété personnelle, dans un entretien avec quelqu'un, on n'est pas forcément obligé de dire les choses. Ça peut être aussi nécessaire pour justement dévoiler une situation. Mais c'est cette parole de connaissance est là pour justement conduire les choses. Alors il y a des exemples, par exemple, oui, je me suis amusé à prendre quelques exemples dans l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, Jésus, vous comprenez. Il y a l'exemple d'Élisée, par exemple. Élisée en 2 Rois chapitre 6. Élisée, il faisait partie du peuple d'Israël. Il priait, c'était le prophète. Et pendant qu'il priait, il recevait de la part de Dieu la connaissance des plans militaires des chefs ennemis. Pendant que les ennemis étaient en train de faire des stratagèmes pour aller attaquer Israël, Élisée, chez lui, il savait exactement ce qui se passait dans le camp ennemi. Alors il le disait au roi, le roi faisait ce qu'il y avait à faire, et les ennemis disaient, mais comment ça se fait? On fait des stratagèmes, et à chaque fois ils sont dévoilés. Connaissance reçue par Dieu lui-même. Il y a par exemple dans le Nouveau Testament, oui, on peut parler de Jésus, mille excuses. Jésus, alors il nous a dit qu'il connaissait tout ce qu'il y avait dans le cœur des hommes déjà. Mais on a une très belle illustration, parce qu'il ne se servait pas toujours de ça pour dire, d'ailleurs quand on voit Jésus, même s'il savait toujours ce qu'il y avait dans le cœur des hommes, il ne disait pas à tous ce qui se passait dans le cœur des hommes. Hein. Il savait aussi garder ça pour lui. Et de temps en temps, tout en sachant ça, il crée des circonstances pour amener à d'autres conclusions. Mais il ne se servait pas toujours de ça. Mais on a cette situation lorsqu'il y a Nathanaël qui va voir Jésus. Et Jésus lui dit en 1 Jean chapitre 1 verset 48, « Avant que Philippe ne t'appelle, quand tu étais sous le figuier, je t'avais vu. » Nathanaël, en fait, il pensait être complètement caché sous son figuier. Il pensait être dans une situation isolée où personne ne le voyait. Et Dieu lui dit, « Tu sais, lorsque tu étais là, dans ta voiture, et que tu pensais à ça, je le savais. » Alors, je baratine parce que je ne sais rien. Mais c'est exactement ce qui s'est passé avec Jésus. Il a dit à Nathanaël exactement une chose, alors qu'il n'était pas censé savoir et que Nathanaël seul pouvait savoir. On a là aussi quelque chose de prodigieux. Et c'est pour ça que ce sont des choses qui sont à vivre. Agabus, il nous est parlé d'un monsieur qui s'appelle Agabus dans le Nouveau Testament. En Actes chapitre 11, par exemple, c'est lui qui va annoncer au peuple de Dieu qu'il y aura une famine. Vous vous rendez compte? Il va annoncer. Lorsqu'il y a eu des tours jumelles qui se sont effondrées, 2001, au rez-de-chaussée de ces immeubles-là, il y avait une église. Une église. Et sans comprendre pourquoi, ça faisait plusieurs réunions où le peuple se réunissait et ils étaient comme poussés à rester dans le silence, dans le recueillement, dans l'intercession. Et lorsque ces tours se sont écroulées, le peuple de Dieu n'était pas là ce jour-là. Parce qu'ils étaient comme préparés à ce qu'il se passerait quelque chose. Dieu est celui qui peut prévenir les circonstances. Lorsqu'il y a eu le tsunami, une église qui avait décidé ce jour-là d'aller faire leur culte sur le haut d'une montagne. Et lorsque le tsunami est arrivé, ils ont été épargnés. Dieu est celui qui peut interpeller, prévenir et faire connaître les choses. Agabus a connu, a su prévenir le peuple d'une famine. En Actes chapitre 21, le même Agabus, un jour, il va à l'église, et puis voilà qu'il trouve une écharpe. Bon, là, c'était une ceinture. Et puis voilà qu'il la met sur lui et tout. Et il dit, voyez, cette ceinture, bah, le propriétaire de cette ceinture va souffrir énormément. Et effectivement, sans savoir, il avait pris la ceinture de Paul, qui effectivement était sur la route pour aller à Rome où il souffrirait énormément. C'est ça le don de connaissance. On a une conscience, une direction, une certitude d'une chose et soit c'est pour nous-mêmes, soit c'est à partager afin de prévenir. En Actes chapitre 5, il y a cette situation qui est aussi, bon, elle est beaucoup moins glorieuse, mais c'est la situation avec Ananias et Saphira. L'apôtre Pierre est là, il gère l'assemblée, et puis il y a un couple qui arrive, il donne de l'argent. En fait, ils avaient... C'est pas le fait qu'ils donnent ou qu'ils donnent pas de l'argent, c'était pas ça le problème. Relisez le contexte, Actes chapitre 5. Mais ils avaient décidé de mentir. C'est ça le problème de cette situation. Ils arrivent avec un mensonge. Ils disent, ma femme, tu dis ça. Ouais, t'inquiète, on se met d'accord. Ouais, on se met d'accord pour mentir. Et Pierre sait que ces gens mentent. Il dit, mais comment vous êtes-vous accordé pour mentir au Saint-Esprit ? Et la fin de ces gens a été terrible. Mais c'est cela, la parole de connaissance, c'est quand on sait quelque chose avec précision. Qu'est-ce que la prophétie ? Alors là, je vous invite à tourner vos pages pour aller dans le chapitre 14 du même livre, 1 Corinthiens, chapitre 14. Pourquoi est-ce que je vous emmène là ? Parce que l'avantage de ce qu'on va lire là, c'est que ce n'est pas une définition que je vous donne là, c'est la définition même de la Bible. Qu'est-ce que la prophétie ? Eh bien, on peut le lire au verset 3. Celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes. J'ai entendu que quand on prophétise, on parle à l'assemblée, aux gens qui sont là. Et c'est quoi ? Il les édifie, il les exhorte et il les console. Qu'est-ce que la prophétie ? C'est une parole que l'on reçoit à communiquer à l'auditoire et qui aura la capacité, la caractéristique d'exhorter, d'édifier, de consoler. Permettez-moi de résumer ça en disant « ça parle au cœur ». On peut continuer avec le verset 24 où il est écrit « Mais si tous prophétisent et qu'il entre un non-croyant ou un simple auditeur, il est convaincu par tous. Il est jugé par tous. Les secrets de son cœur sont dévoilés de telle sorte que tombant sur sa face, il adorera Dieu et publiera que Dieu est réellement au milieu de vous. » Amen. Là, qu'est-ce qu'il est en train de dire, Paul ? Il dit, mais ce serait formidable que vous puissiez tous prophétiser. Ce serait formidable que vous ayez tous une parole qui exhorte, qui console, qui édifie. Parce que même si c'était un incroyant qui viendrait au milieu de vous, par cette parole qui toucherait son cœur, qui l'exhorterait, qui le consolerait, alors il verrait qu'il y a une grande différence entre une parole qui est inspirée de Dieu et qui touche le cœur et des paroles vaines, des paroles générales. Une parole prophétique a pour vocation justement, et c'est ce qui la caractérise, c'est que c'est le cœur qui est touché. Alors c'est vrai, peut-être que la parole peut paraître très simple. Elle est différente de la parole de connaissance parce que la parole de connaissance va dire quelque chose de pointu. Elle va dire qu'elle va dévoiler quelque chose de précis. Reprenons cet exemple de Pierre Ananias qui dit « Mais vous avez menti. » Oh, comment il sait ça ? Mais oui, sur ce que vous apportez, vous avez menti, vous êtes concerté pour mentir. Ça, c'est quelque chose de précis. L'exemple de cet homme qui avait un couteau dans son sac pour couper la tête de quelqu'un. Et on lui dit, mais t'as un couteau dans ton sac. Et les projets que t'es en train de faire, ça va ruiner ta vie. Oh, mais comment vous savez ça ? C'est précis. C'est un fait. Tandis que là, la parole prophétique, elle touche le cœur. Elle n'est pas en train d'interpeller sur des faits. Elle est en train d'interpeller sur un état de cœur, sur une direction. Et je suis bien convaincu que la plupart d'entre nous sommes au moins venus une fois à l'église en disant « Ah Seigneur, si seulement tu pouvais avoir une parole pour moi, n'est-ce pas ? » Bien plus qu'une guérison, bien plus qu'un miracle, bien plus qu'un dévoilement d'une situation. Parce que dans les situations, on les connaît. Mais ce qu'on a besoin, c'est de quelque chose qui touche notre cœur, qui redonne de la force, qui redonne une direction, qui console, quelque chose qui vient de la part du Seigneur. Et ça nous est peut-être déjà arrivé d'être au milieu de l'assemblée et d'entendre quelqu'un qui va ouvrir sa bouche, peut-être avec une phrase qui n'a peut-être pas forcément un contenu très spécifique. Pardonnez-moi, je ne cherche pas à mimer quoi que ce soit, mais qui dirait peut-être une sorte de banalité du genre « T'inquiète pas, prends courage, le Seigneur te connaît, il te voit. » On dit « Ouais, bon, tout le monde peut dire ça. » D'accord, peut-être, c'est vrai. Mais quand elle est inspirée de Dieu, celui qui la recevra à ce moment-là, à cette minute-là dans son cœur, ça fera toute une différence. Parce qu'il ne la recevra pas seulement parce que les mots sont bien ou mal choisis, parce que c'est plus ou moins profond. Ce n'est pas à nous de juger ça. D'ailleurs, la Bible nous dit de ne point juger les prophéties. Et on verra ça la prochaine fois. Mais il y a une démarche de foi qui fait que l'on doit communiquer ce que l'on reçoit. Et qu'effectivement, cette parole-là, elle ne va pas concerner les 50 personnes de l'auditoire, ni les 200, ni les 300. Mais elle va peut-être concerner une personne Et cette personne-là, en la recevant dans son cœur à ce moment précis, sera renouvelée dans son être intérieur. Amen. Alors, j'anticipe un peu sur la semaine prochaine, parce que je ne sais pas si j'aurai l'occasion d'aborder ça, mais c'est pour ça que je vous encourage à témoigner. À témoigner lorsque vous avez été touché dans l'auditoire par une parole qu'on va appeler prophétique. Pourquoi ? Parce qu'on peut entendre de temps en temps des paroles qui sont exprimées. Et puis on pourrait se dire, parce qu'on est un peu humain, et comme ça ne nous a pas forcément touché personnellement, on peut commencer à dire est-ce que c'est vraiment le Seigneur ou est-ce que c'est un peu lui qui a envie de se faire mousser ? C'est pour ça que c'est important de pouvoir rendre témoignage lorsque vous avez été touché par une parole prophétique. Il y a plusieurs manières. Soit en le disant à l'assemblée, comme on a l'habitude de rendre témoignage de ce qui se passe dans nos cœurs, soit de le dire à votre pasteur, dire « Ah, vous savez, bon, je cible pas ma personne, hein, y a des gens qui ne sont pas de cette assemblée, ils le diront à leur pasteur. Mais de pouvoir témoigner à leur pasteur, « Ah, j'étais béni parce qu'il y a eu une parole et ça a touché mon cœur. » Parce que le pasteur aussi, ça peut le servir, dire « Ah, est-ce que la sœur, est-ce que c'est vraiment de la chair, est-ce que ça vient du Seigneur ?» Et ça peut confirmer, apporter une approbation, ou tout simplement, aller voir la personne qui a eu l'audace, le courage plutôt, je préfère le mot courage, la foi, d'ouvrir sa bouche pour exprimer ce don spirituel, et pour ceux qui n'hésitent, ou pour ceux qui ont déjà expérimenté, il y a un combat dans notre cœur. Parce que est-ce que ça vient vraiment du Seigneur ? Est-ce que c'est nous ? Est-ce que c'est ça que je dois dire ? Et on ne sait pas. Et malheureusement, à cause de ça, certains gardent cette parole-là, au lieu de l'exprimer avec foi. Et pour les jeunes qui s'y mettent, ou les débutants, parce qu'on n'est pas forcément jeune quand on débute, il y a un combat intérieur. Et moi, honnêtement, personnellement, je bénis le Seigneur de ce que dans mes débuts d'exercer des dons spirituels, spontanément, les gens soient venus nous dire « Ah, mais merci pour ta parole, ça m'a touché. Oh, tu sais ce que tu as dit. C'est une parole qu'on m'avait dit il y a 3 ans, 4 ans, avec telle personne. Et quand tu as dit ça, c'était exactement les mêmes mots. Mais ça nous rassure aussi. » On dit « Merci Seigneur ». Et c'est important, donc, quand vous recevez une parole, non pas d'élever, de glorifier, ni nous, parce que nous, on reçoit, c'est un cadeau, donc on a juste de la reconnaissance. C'est pas question de dire « Ah, t'es supra-spirituel ». Mais c'est une manière d'encourager celui qui a communiqué, parce que si vous partez et que la personne qui a eu foi de communiquer cette parole, si elle n'est jamais encouragée, si elle ne sait jamais si vraiment ça a été... Parce que ça s'apprend, on verra ça donc la semaine prochaine, ça s'apprend l'exercice des dons spirituels. Donc c'est pour ça que c'est important de pouvoir témoigner de ce genre d'expérience. Quatrième don spirituel que l'on va voir ce matin, c'est le discernement des esprits. Comprendre dans le mot esprit, les esprits mauvais. C'est le discernement des esprits mauvais. C'est-à-dire que il y a des situations où on ne sait pas trop si c'est influencé par des puissances occultes, mauvaises, par des mauvais esprits, ou si la situation ou la personne est influencée par un problème d'ordre médical ou psychologique ou circonstanciel. Il y a des situations où on a besoin de discernement. Quel est le problème ? On a l'exemple d'Élisée. Élisée, en 2 Rois, chapitre 6, il est dans le camp en train de prier. Il y a les ennemis à l'extérieur qui sont très menaçants. Le peuple est dans la crainte. Et Élisée, spirituellement, sait que le combat est d'ordre spirituel. Et il voit dans le ciel les chars spirituels. Il a une compréhension, une révélation que le combat ne sera pas d'ordre humain, mais qu'il sera d'ordre spirituel. On a une situation pratique, par exemple, avec Jésus. Dans Luc chapitre 1, chapitre 13, verset 11, il nous est dit que Jésus... Alors, je vais plutôt dire comme ça. Les gens ont vu que Jésus avait guéri une femme qui était courbée depuis 40 ans, il me semble. 18 ans ? J'ai pas eu le temps de vérifier, mille excuses. Mais la femme, elle est courbée. D'accord ? on aurait dit quoi? Elle a l'imbago, elle est coincée, elle a les vertèbres... Bref. Mais Jésus ne l'a pas guérie. Il est dit que Jésus chassa le mauvais esprit qui tenait cette femme courbée. Il avait le discernement. Tout le monde la voyait en disant « Oh, la pauvre dame, elle va chez l'ostéopathe, ça fait rien du tout. Le kiné, ça fait rien du tout. La pauvre dame, qu'est-ce qu'elle doit souffrir avec son dos? Oh, vous savez, ça fait des années que je suis comme ça. » Et Jésus ne l'a pas guéri. Jésus a chassé le démon qui la maintenait comme ça. Et là, il y a le discernement des esprits. Vous voyez la situation? On a la même situation avec Actes chapitre 16 où Paul va chasser un mauvais esprit dans une dame qui pourtant les suivait. Elle était d'accord avec la prédication. Elle disait, mais ces gens-là, ils vous prêchent la vérité, c'est le Seigneur, une super chrétienne. Et nous, on serait contents. Et cette femme était animée d'un mauvais esprit. Et Paul, au bout de quelques temps, était fatigué. Il a chassé cet esprit de cette femme. Là, tout le monde a dit, bah mince alors. Et nous, on croyait que c'était une super chrétienne. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, c'est très important aussi d'avoir le discernement des esprits. Là aussi, c'est parfois pour agir, parfois pour prier. Mais c'est important d'avoir ce discernement. J'ai entendu une histoire, alors c'est un peu à l'inverse. Mais là aussi, ça peut montrer comme quoi, tantôt, on peut se mener à un mauvais combat. C'est un pasteur qui m'avait raconté cette anecdote. Il y avait une dame qui avait des problèmes. Et donc, les quelques chrétiens qui avaient décidé de l'entourer, ils disaient « Ah, elle est animée d'un mauvais esprit. » Alors, ils priaient, ils faisaient des cellules de prière, ils priaient. « Oh, chasse bon. !» Et puis, bon, lui, il a intégré le groupe. Et puis, il voit cette situation-là. Et puis, il s'est aperçu que cette dame-là, elle avait des symptômes qu'il connaissait d'une rare maladie. Elle dit « Stop, arrêtez de chasser les démons, il n'y a pas de démons. C'est juste une maladie rare que j'ai eu l'occasion de connaître. C'est tel traitement qu'il faut lui donner. » Ils lui ont donné ce traitement. La dame, elle a été guérie. Vous voyez? Donc le discernement des esprits, il ne suffit pas de chasser soi-disant les démons dès qu'il y a quelque chose qui nous échappe. Il est important d'avoir des convictions dans ce domaine-là et de trouver un bon équilibre, de ne pas voir des démons là où il n'y en a pas et de voir et de ne pas voir les démons là où ils sont. Que le Seigneur, là aussi, puisse nous donner le discernement des esprits, qui n'est pas seulement là une sorte d'évaluation personnelle, mais qui est vraiment une conviction et un éclairement, une révélation de Dieu par le Saint-Esprit. Le dernier don, la dernière révélation, le dernier don de révélation, c'est l'interprétation des langues. Alors ce don est un peu particulier. Parce que si vous êtes toujours dans 1 Corinthiens chapitre 14, on peut lire ensemble le verset 2, où il est écrit que celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes. Et ça, c'est toute la différence avec tous les autres dons d'inspiration qui avaient pour but l'édification de l'Église, enrichir le peuple de Dieu, donner une direction pour le peuple. Là, ce don-là, ce n'est pas en direction des hommes que l'on interprète, mais c'est en direction de Dieu. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu. Car personne ne le comprend, et c'est en esprit qu'il dit des mystères. Donc on comprend que l'interprétation, par exemple, si on lit encore le verset 14, car si je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure stérile. Que faire donc? Je prierai par l'esprit, mais je prierai aussi avec mon intelligence. Je chanterai avec l'esprit, mais je chanterai aussi avec l'intelligence. Autrement, tu rends grâce par l'esprit. Comment celui qui est dans les rangs des simples auditeurs dira-t-il amen à ton action de grâce? Puisqu'il ne sait pas ce que tu dis. Tu rends, effectivement, il est vrai, d'excellentes actions de grâce. Mais l'autre n'est pas édifié. Donc là, il est en train de parler de ceux qui parlent en langue. Et il dit bien que le parler en langue, c'est une prière, c'est une louange, c'est une action de grâce, c'est quelque chose qui s'élève vers Dieu. Mais le problème, c'est que la plupart du temps, ce parler en langue, cette langue inspirée, elle n'est pas comprise de l'auditoire. D'où la nécessité qu'il y ait quelqu'un qui reçoive l'interprétation de cette langue. Il n'est pas parlé de traduction. Il est parlé d'interprétation. C'est-à-dire comprendre le contenu, l'émotion, la direction de ce qui est exprimé là, afin qu'effectivement, divinement inspiré, ce qui a été communiqué en langue puisse être interprété dans la langue des gens pour la comprendre. Je vous prends un exemple encore là connu. C'était un rassemblement dans une église et c'était une grande église. Donc il y avait beaucoup de va-et-vient, beaucoup de... Enfin, pour ceux qui sont dans les grandes métropoles, ils savent qu'il y a beaucoup d'allées et venants dans les assemblées. Et un jour, il y a un homme qui vient et... Alors c'est vieux qu'on m'a raconté cette histoire, hein, mais le principe c'est celui-là. Il n'était pas croyant, hein, il n'était pas croyant, il vient dans cette assemblée-là, et je crois que, pour quelle raison, je ne sais pas, mais il parlait l'hébreu, il comprenait l'hébreu. Et puis il est là, il regarde un peu, et puis voilà qu'il y a un monsieur qui commence à parler une langue, qui pour la plupart d'entre nous était une langue incompréhensible. Et le monsieur il est surpris, il dit mais comment ça se fait? Ah si, j'aurais une autre anecdote après. Pourquoi je n'ai pas pensé à cela? Et le monsieur, il arrive et il entend ce monsieur-là au bout de la salle qui parle en hébreu. Et lui qui parle hébreu, il comprend quoi. Tout de suite, il fait la traduction dans sa tête. Il y a un silence et voilà qu'il y a une autre personne qui... Je le raconte tel que lui l'a vécu. Voilà qu'une autre personne ouvre la bouche et dit exactement en fait ce que lui avait compris de la prière. Et il était un peu perplexe, mais c'est quoi cette histoire? C'est quoi ces gens qui parlent hébreu là et puis l'autre qui traduisent? Et le patient lui explique, bah c'est le parler en langue. Il dit mais attends, c'est n'importe quoi. Alors ils ont convoqué les deux. Les deux évidemment, c'est comme si moi vous me demandiez de parler en russe et il lit en javanais quoi. Vous voyez, c'est... Et là il s'est aperçu qu'effectivement il y a quelque chose de prodigieux. Si une petite anecdote qu'on a pu vivre, je vais juste vous la raconter. Vous rappelez, il y avait une jeune femme pour qui on priait, Amandine, et qui était partie à l'hôpital. On avait prié pour cette femme-là, pour cette jeune fille. Et cette jeune fille-là, elle cherchait la face de Dieu, et elle était, bon, vous rappelez un peu la situation, elle était en grande détresse. Et dans sa chambre d'hôpital, dans son cœur, elle avait fait une prière, elle dit « Seigneur, si tu ne me visites pas ce soir, je mets fin à mes jours. » Et l'histoire telle qu'elle nous a été racontée, là il y a un peu plus d'émotion parce que là c'est ce qu'on a pu vivre en direct. Il est raconté par le papa qui lui est un converti. Il s'est passé que dans la nuit, les infirmières ont entendu du bruit dans sa chambre. Ils arrivent. Cette jeune fille ne parlait pas ou elle bégayait énormément à tel point qu'en fait elle n'a pas de la faculté de parler comme on l'a. Et voilà que les infirmières entendent du bruit dans sa chambre. Ils y vont et voilà qu'ils l'entendent parler en une langue bizarre. Mais c'est quoi, elle est complètement folle. Et heureusement, ce jour-là, dans le service, une infirmière arrive. Cette infirmière, elle était de Madagascar. Elle dit, mais non, elle n'est pas folle. Elle parle dans un dialecte que je connais, moi, sur mon île à Madagascar. Et elle racontait que cet enfant était en train de proclamer la grandeur de Dieu. Amen. Ça, c'est l'interprétation. C'est recevoir la compréhension, l'interprétation, la révélation d'une parole qui peut être donnée par quelqu'un qui ne connaît absolument aucune de ces langues-là et l'interprétation qui l'accompagne. Non, c'est quelque chose de grand aussi à vivre et que nous puissions le développer au milieu de nous. Je vais peut-être, en 2 minutes, vous encourager quand même à une chose. Parce que je m'aperçois qu'il y a un mauvais pli qui se fait dans quelques églises. Alors c'est pas de la critique, c'est de l'observation, d'un constat. Peut-être que vous avez pu le constater aussi. Mais j'ai pu observer que dans des églises, quelqu'un va parler en langue, il va exprimer un don en langue. On s'attend à l'interprétation. Et parfois, pour pas dire de plus en plus fréquemment, c'est une parole plutôt d'ordre prophétique qui est exprimée. Parole prophétique, c'est quelque chose qui ne parle pas à Dieu. Pourtant, on a dit que le parler en langue, ça parlait à qui? À Dieu. Mais la parole prophétique parle à quelqu'un. Et on s'aperçoit qu'il arrive que dans des églises, dans des façons de faire, quelqu'un exprime à parler en langue. on s'attend à l'interprétation, quelqu'un ouvre la voie et donne une parole qui est plutôt d'ordre prophétique. Et on dit « Alléluia !» Moi, ça me pose problème. Je ne dis pas que la prophétie est fausse. Peut-être qu'effectivement, la prophétie était déjà sur le cœur de quelqu'un qui devait la mener. Mais je dis qu'il ne l'a pas apportée au bon moment. Parce que ça peut créer la confusion. Parce que quelqu'un qui aurait peut-être reçu l'interprétation dans son cœur, qui aurait plutôt été une louange, une action de grâce, il le reçoit dans son cœur, il dit « Est-ce que c'est vraiment ça ?» Et voilà que quelqu'un d'autre, entre guillemets, prend sa place pour donner, lui, une autre inspiration. Parce que comme on l'a lu, tout le monde peut prophétiser, tout le monde peut avoir une place dans l'Église pour exprimer quelque chose qu'il reçoit du Seigneur. Donc ce n'est absolument pas anormal que dans l'Église, il puisse y avoir une diversité de dons. Mais si, au moment où on s'attend à l'interprétation, c'est une prophétie qui est donnée, alors celui, déjà, on fausse, parce qu'on croit que la prophétie, c'est l'interprétation du parler en langue, et c'est pas ça. Ça fausse le cœur de celui qui a réellement reçu l'interprétation. Et qu'est-ce qu'il va faire? Comme tout le monde a dit « Amen », il va dire « Je me suis trompé ». Et la prochaine fois que le Saint-Esprit travaillera son cœur, qu'est-ce qu'il va dire? « Ah ben non, en plus, c'était complètement à côté de la plaque ». Et oui, parce que de temps en temps, ça peut arriver, mais il ne faut pas jouer avec ça. Hein. Qu'on dise « Oh Seigneur, je ne sais pas si c'est vraiment ça », et Dieu permet que ce soit quelqu'un d'autre qui ouvre la bouche à votre place et confirme que ce que vous aviez, c'était vraiment de la part du Seigneur. Ça, c'est pour vous encourager, mais faites pas ça à chaque fois, parce qu'au bout d'un moment, le Seigneur va dire « C'est bon, toi, je t'appelle à un service, tu n'es jamais présent quand je t'appelle au service, c'est bon quoi, on va pas... » Vous savez, Dieu n'a pas besoin de nous, hein. Qu'on soit conscient. Hein. Si nous ne sommes pas présents au rendez-vous divin, vous inquiétez pas, il va se servir de quelqu'un d'autre. Rien n'empêche l'œuvre de Dieu. Tout ce qu'il a besoin, c'est de nous. Plus on sera disponible, plus son œuvre sera grande, efficace, fluide, et chacun sera épanoui. Mais sinon, vous inquiétez pas, rien n'empêche l'œuvre de Dieu. Même avec un âne, Dieu a fait son œuvre. Alors vous inquiétez pas. Et donc, c'est pour ça qu'il est important de garder les repères de la parole de Dieu. Je ne dis pas que derrière chaque parole inspirée, Dieu, derrière un parler en langue, Dieu ne peut pas donner un message prophétique. Pourquoi pas? Malheureusement, ça m'est arrivé une fois. Donc, pourquoi pas? Mais l'expérience ne doit jamais suppléer l'enseignement de la parole de Dieu. Vous comprenez? Le principe que l'on doit garder dans notre esprit, c'est qu'un parler en langue, c'est une louange, c'est une action de grâce. Ça s'adresse à Dieu. Et donc, quand on doit chercher l'interprétation, Seigneur, c'est ça qu'on doit recevoir. Et si après c'est autrement, ça se fait autrement. Mais nos repères doivent être ceux-là pour être bien sûr que ceux qui prophétisent apportent vraiment la prophétie indépendamment du parler en langue. Parce que j'ai fait des petites enquêtes après. Hein. Ça m'est arrivé d'aller voir des frères, des sœurs qui avaient donné un don de prophétie après un parler en langue. Je lui ai dit, mais pourquoi tu as donné ton parler en langue, l'interprétation, enfin, la prophétie après le parler en langue? Il dit, moi je fais toujours comme ça. J'attends toujours qu'il y ait un parler en langue pour donner ma prophétie. Et j'ai dit, voilà, boulette. Boulette. Parce que déjà, peut-être que tu donnes pas au moment favorable pour la personne qui aurait dû le recevoir. Parce qu'il s'en passe hein, des choses dans la tête quand on est dans l'église. Hein. On dit, oh Seigneur, on veut être là, mais dans ce temps, notre esprit il est en train de vagabonder à gauche à droite. Et l'attaque, pendant qu'on est en train de vagabonder à gauche à droite, le Seigneur nous parle. Oh si Seigneur, t'es vraiment là, merci. Donc on a besoin de réaliser qu'il y a la précision de Dieu dans l'exercice des dons spirituels. Et puis, je vous rappelle même une fois dans une église, pour vous dire comme quoi, de temps en temps, il y a vraiment des habitudes, des mauvais plis. C'était une fois, je dirigeais la louange dans cette assemblée-là, et il y a eu un parler en langue qui s'est élevé. Et puis, spontanément, je dis voilà, que celui qui a reçu l'interprétation de cette louange, de cette action de grâce, qu'il puisse la communiquer à l'assemblée pour continuer dans la louange. Silence. Bon, on reprend les chants, etc. Bon, j'ai le droit de me tromper, hein, on est d'accord hein. Le pasteur vient me voir. « Ouais, Benoît, hein, pourquoi tu dis ça hein, le parler en langue, hein, c'est pas forcément... » Je dis « Non, pas forcément, mais... » »« Oui, non, bon, ok, je m'incline, hein, on n'est pas là pour se prendre la tête. Hein. » D'autant que personne n'avait ouvert la bouche, donc il y avait... la balle était au centre. Hein. Deux ou trois semaines après, je rends visite à ce frère qui avait ouvert la bouche pour... Non, je rends visite à un frère Et ce frère-là me dit, ah, tu sais, Benoît, tu te rappelles le culte où il y avait un parler en langue? Je dis, ouais, je me rappelle, ouais. Ouais, ouais. Et t'avais dit que c'était quelqu'un. Mais c'est marrant parce que vraiment dans mon cœur, j'ai pas osé le donner. J'ai fait lui dire, oh. Ah bon, et c'était quoi? Tu te rappelles ce que tu voulais dire? Ah oui, oui, c'était bizarre. C'était, oh Seigneur, je t'adore, Seigneur, je te loue, Seigneur, je te proclame. Oh, j'ai pas osé le donner. Je dis, ben c'est dommage. Donc voilà, vous voyez comme quoi on peut t'entendre prendre des habitudes et croire que nos expériences prévalent sur l'enseignement de la parole de Dieu. Donc il faut qu'on soit vraiment vigilant. Et qu'on dit, Seigneur, donne-nous des parlers en langue inspirée. Donne-nous des interprétations inspirées. Amen. Donne-nous des paroles prophétiques. Donne-nous des paroles de sagesse. Donne-nous, Seigneur, d'avoir des paroles de connaissance. Amen. Amen. Et que nous puissions chacun prendre conscience que celui qui a été baptisé dans le Saint-Esprit, il n'a pas été baptisé seulement pour dire, tiens, en 2015, j'ai été baptisé, mais pour être un instrument de bénédiction pour l'édification du peuple de Dieu. Amen. Et on verra la semaine prochaine des aspects pratiques pour que chacun puisse s'engager et rechercher ces choses excellentes. On prend le temps de remercier le Seigneur quelques instants.